Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on parle d'handicap invisible. On parle d'espoir. On parle de résilience aussi. On y va pour les détails.
Médi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Intisar Hafed, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Intisar?
Ça va, merci, alhamdoulilah. Merci à vous, Yasmine. Moi, j'adore votre programme. Et chaque fois, je me disais, un séjour, je vais passer pour raconter mon histoire. Et ce fut aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité.
C'est moi qui vous remercie pour la confiance. Blake, c'est moi qui vous remercie, justement, de vouloir partager votre histoire de vie, de pouvoir contribuer à la communauté de femmes d'aujourd'hui, de montrer comment parfois la vie peut être compliquée, peut nous prendre par surprise, mais que ouais. La volonté derrière eh bien, et la résilience, c'est ce qui nous fait avancer. Lala Intisar, donc c'est moi qui vous remercie, Blex. Je suis redevable et reconnaissante à toutes les femmes de la communauté de femmes d'aujourd'hui. Sans vous, le programme n'existerait pas. Sans votre confiance, le programme n'existerait pas parce que c'est un programme qui est basé, c'est un podcast qui est basé sur la confiance avant tout. Voilà, c'est ce qui nous porte. Et d'ailleurs, entre parenthèses, des fois, j'ai des femmes qui me proposent des sujets qui les concernent directement ou là, des expériences de vie qui les concernent directement. Et en fait, je leur propose de ne pas le passer, en fait, carrément. Parce que des fois, je pense que la société n'est pas prête ou l'entourage proche n'est pas prêt à entendre certaines réalités. Et donc, vaut mieux ne pas nuire à cette... Par exemple, en médecine, le bénéfice-risque, le bénéfice de partager son histoire face au risque par la suite, ça n'en vaut pas le coup. Je préfère protéger mes femmes, comme on dit. Lala Intisar.
Oui.
Alors, vous avez toujours voulu raconter votre histoire d'une femme d'aujourd'hui.
Exactement.
Jeune femme d'aujourd'hui, jeune femme ingénieure, active professionnellement. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, comme vous avez dit, je suis une jeune femme marocaine, je suis ingénieure d'État en système d'information et télécom. Je suis aussi maman de deux petits-enfants. Et je suis pleine d'ambition, pleine de rêves, etc. Et en 2021, ma vie a bousculé à cause d'une maladie qui m'a créé des pathologies, on va dire, douloureuses et handicapantes.
D'accord. Alors, maman, ingénieure, maman de deux enfants, 2021, les enfants avaient quel âge?
Le garçon, il avait à peine 5 ans et demi, et moi, j'avais à peine accouché de la petite de 3 mois.
D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? C'est quoi cette pathologie? Wesh, elle était existante, déjà, ou pas?
Alors, moi, je ne savais pas qu'elle était existante, parce que c'est une maladie rare. D'accord, c'est une maladie rare qui touche ce qu'on appelle le tissu conjonctif. C'est, on va dire, un ensemble de cellules que nous avons dans le corps qui protègent nos organes. C'est comme une sorte de colle qui permet la cohésion entre les articulations, les muscles, le cœur, on va dire la peau, les organes internes, etc. Et chacun peut expérimenter cette maladie de façon différente, on va dire, selon la sévérité des symptômes. Moi, par ma malchance, j'avais eu certains symptômes pendant, on va dire, des années, mais c'était des symptômes, on va dire, des problèmes de cœur, de vessie, de peau, par-ci, par-là, que je ne savais pas que ça émanait de la même cause. Mais quand même, ça n'empêchait pas de vivre et de vivre normalement.
Alors, Blet, parce qu'avec vous, c'est ça, l'idée, c'est justement de raconter votre parcours, mais aussi... quand il s'agit de maladie, de faire de la prévention. Had les symptômes hadou. Alors, rappelez-moi le nom de la pathologie. J'ai l'impression que c'est plutôt un syndrome, en fait, puisque c'est une...
Exactement. C'est Euler dans l'os. C'est le nom, des scientifiques qui l'ont découvert, tout simplement.
D'accord.
Euler dans l'os, bon. Par abréviation, ça s'appelle EDS.
EDS. Syndrome EDS.
Exactement.
Voilà, syndrome EDS, on va appeler ça comme ça. Donc,
le syndrome en lui-même, on va dire... il peut passer inaperçu. Il y a des personnes peut-être qui ne savent pas qu'ils l'ont.
Ok. Vous, c'était quoi les... Alors, vous avez dit pendant des années, j'avais différents signaux, mais personne ne les a jamais, on va dire, rassemblés pour en faire les symptômes d'un syndrome, en fait.
Exactement, voilà. Quand j'avais mal pour un organe, j'allais chez le spécialiste de cet organe et c'est bon. Mais je ne savais pas que ça émanait voilà, de la même cause jusqu'en 2021 où j'ai eu le Covid. Quand j'ai eu le Covid, j'ai eu des atteintes neurologiques. Et pour moi, c'est ça ce qui fait partie, on va dire, de ma plus grande souffrance, c'est l'atteinte neurologique. Et j'ai eu l'inflammation sur les nerfs du crâne, qui s'appellent les nerfs occipitaux, et les nerfs du visage, qui s'appellent les nerfs du trijumeau.
OK. Ça,
Je
c'était pendant
vous.
l'infection Covid.
Exactement. Ça a commencé comme ça. Moi, je me disais, bon, c'est lié au Covid,
Ah.
ça va partir,
Et c'était quoi
mais
des
non.
douleurs?
Alors, c'est des maux de tête intenses, avec des brûlures au niveau du cuir chevelu, avec cette sensation qu'on a quelqu'un qui est en train de nous donner des coups de couteau au niveau de la tête. Et au niveau du visage, c'est des brûlures, c'est des chocs électriques. Et c'est aussi c'est comme si on m'a donné des coups de poing ou on m'a poignardé avec des couteaux. Et le truc, c'est que ça s'intensifiait avec le temps et c'était vraiment rebelle contre tous les médicaments et tous les traitements que j'avais reçus.
D'accord. Et pendant, j'imagine, cette période, à ce moment-là, on pensait que c'était un des symptômes de l'infection Covid.
Exactement. On me disait peut-être c'est le Covid lent.
Ah.
Il y a des neurologues qui me disaient, oui, vous avez cette pathologie de névralgie. Vous avez la névralgie d'Arnold, vous avez la névralgie du trijumeau, mais on ne sait pas elle est due à quoi cette inflammation. Et à la fin, ils peuvent te dire, faut aller voir un psy.
MC, exactement.
Alors, même avec ces mots-là, et je sais que la douleur, elle est là. Et c'est une douleur quotidienne permanente en H24. Je suis partie chez le psy. Et au final, il te dit, Madame, vous n'êtes pas déprimée, vous n'avez pas de problème psychologique ou psychique. Vous êtes malade. Et c'est normal. Vous êtes malade, vous ne connaissez pas la source de votre douleur. Peut-être que votre douleur, elle a une cause. Je n'oublie pas. Le médecin, il dit, je suis sûre que votre douleur, elle a une cause scientifique, que peut-être elle n'est pas encore reconnue. Mais ne baissez pas les bras, cherchez encore et encore. Et vers septembre, j'ai décidé de partir à l'étranger vers un centre d'antidouleur. Et c'est là qu'on m'a parlé du syndrome de l'air dans l'os. Et après, je suis rentrée au Maroc. J'ai beau chercher pour trouver un médecin qui est spécialiste dans cette maladie. Il m'a fait l'examen clinique, tout ce qu'il fallait. Et il m'a confirmé, voilà, c'est l'air dans l'os. Et ça a attaqué principalement les nerfs. Et les muscles, les articulations, etc.
Est-ce que c'est une maladie génétique?
Oui,
L'origine
j'ai
est
une maladie
génétique.
génétique. Mais on va dire, les recherches ne sont pas encore avancées pour dire c'est quoi exactement le gène qui cause ça.
Comment est-ce qu'on
Je
peut
ne sais pas.
l'avoir et ne pas le savoir?
Ça dépend on va dire, des symptômes. Des symptômes. Si vous avez par exemple seulement un problème articulaire, vous pouvez seulement avoir un problème au niveau de l'estomac, vous pouvez avoir seulement des problèmes au niveau des muscles. Il y a des personnes qui ont un seul symptôme, il y a des personnes qui ont plusieurs symptômes, ça dépend.
Avant le Covid, avant l'infection Covid, les autres symptômes, est-ce qu'ils étaient légers?
Léger, on va dire qu'ils n'étaient pas permanents. Il y avait des périodes où à chaque fois, il y a un petit problème de santé qui survenait. Et quand je faisais des analyses, je ne trouvais rien. Quand je faisais des radios, je ne trouvais rien. Mais la douleur, elle est là. Et elle dure pendant des mois.
À des
Et
mois.
après, elle disparaît. Ouais, voilà, des mois, des fois, c'est 3 à 4 mois, je peux souffrir, je ne sais pas, d'un problème à l'estomac. Et puis, ça disparaît. Je peux avoir des tachycardies. Et puis, ça
Mais
disparaît.
et quand vous
Je
allez
peux
voir le médecin et vous faites les examens, tout va bien. L'estomac va bien, l'organe va bien, le cœur va bien, le muscle va bien, tout va bien.
Oui, tout va bien. Il trouve pas, pour le médecin, tout va bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas une maladie qui va vous tuer. C'est pas...
Non, mais quand je dis tout va bien, ça veut dire on voit rien. C'est-à-dire l'estomac me fait un ulcère, le cœur,
voilà,
il n'est pas...
Exactement.
C'est ça, en fait.
Voilà,
c'est,
exactement.
C'est qu'il n'y a pas voilà. de... Il y a rien de visible, par exemple.
Non.
Yek, c'est ça.
Voilà, c'est juste ce tissu conjonctif qui était la protection de nos organes, il devient fragile. Donc, il ne fait pas assez son boulot. Il est déréglé.
Il est déréglé, oui.
Voilà.
Aujourd'hui,
tout
comment ça va
pour moi.
Comment ça va, Ntissar, aujourd'hui?
C'est une question difficile. Mais je dirais, alhamdoulilah, ala kulli hal. C'est difficile de dire ça va, parce que ça ne va pas. Et, mais on va dire, alhamdoulilah, ala ni'mat l'islam, parce que, on va dire, c'est le seul moyen, ou bien c'est le seul refuge qui me donne la force pour continuer. Pour mes enfants, pour mes parents, pour moi-même, en tant que personne, et me dire que peut-être un jour ça va passer. Mm. Je ne sais pas, ça sera quand, mais j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et je me dis ça va passer. Ça va passer.
D'accord, mais quand vous dites c'est difficile, c'est-à-dire depuis le Covid, depuis que vous avez eu le diagnostic, depuis, enfin Covid, 3 ans après vous avez eu le diagnostic de la maladie, la douleur ne s'arrête plus, ou est-ce le justement avec le tissu conjonctif, c'est tellement fragilisé que ça fait la douleur est chronique.
Oui, la douleur elle est chronique, elle est permanente en H24, elle ne bouge pas, et elle peut être accentuée à des moments, mais à partir de 2024, malheureusement j'ai encore eu le Covid et on va dire le seuil de la douleur il a vraiment augmenté. Et les crises qui m'allaient de temps à autre, c'est devenu mon quotidien. Je vis toujours en crise.
Une crise, ça veut dire quoi?
C'est une douleur qui m'empêche de parler, qui m'empêche de manger, qui m'empêche des fois de respirer. C'est
C'est une douleur à quel niveau?
C'est au niveau de la tête, au niveau du visage, au cou, aux épaules, à la main. Et puis, ça peut être réparti tout au long du corps. Jusqu'aux pieds.
Et, ouais. c'est des crises mais qui durent combien de temps? La douleur, elle dure combien de temps?
Au début, c'était des crises qui duraient des heures, voire 2-3 jours. Mais maintenant, je suis arrivée à des crises qui durent des semaines, voire des mois.
Quand
où
ça...
je reste cloutée à mon lit. Moi, je suis tout le temps allongée. Moi, je ne peux plus me lever, je ne peux plus m'asseoir. Mon monde, il a rétréci. C'est devenu mon lit et mon fauteuil.
D'abord, vous nous parlez à partir d'où? Du lit ou du fauteuil?
Du fauteuil. Pour changer un petit peu.
C'est incroyable, c'est ça, parce que vous avez une voix tellement heureuse, en fait, et tellement joyeuse, que j'ai
c'est
du mal à vous voir comme
ma
ça.
Ma nature.
Ouais.
C'est ma nature. Voilà, c'est ma nature. Quand il y a des gens qui viennent me voir à la maison, j'aime pas leur montrer que je suis en train de pleurer, que je suis en train de déprimer. Et j'ai fait l'effort pour sourire. Et ce qu'ils me disent, ça se voit pas que tu es malade.
Ouais.
Ça se voit pas. Ça se voit pas. Oui, ça se voit pas parce que si vous êtes venu me voir, je vais pas vous rendre aussi malheureux que moi. Merci pour la visite. Donc, je fais l'effort. Je fais l'effort pour la famille, pour mes enfants. Donc, cette buée de dépression, je la vis moi toute seule. Mm. C'est vrai que des fois, je craque. Je peux me laisser pleurer devant mes parents, devant mes frères et sœurs, mais je ne le fais pas souvent.
Mm.
Je ne le fais pas souvent parce que je sais que c'est dur aussi pour eux. Donc, je ne vais pas leur donner la vie difficile. Des fois, je suis dans le mensonge, dans le déni, dire « oui, je vais un peu mieux ». Ou bien « non, la crise est passée, elle n'est pas passée ». Parce que je suis fatiguée de les voir souffrir avec moi.
Oui.
Donc, je réserve, on va dire, un grand pourcentage pour moi et je laisse passer un tout petit peu pour juste respirer.
Donc,
voilà.
la douleur est constante?
Et constante. Là, même je suis en train de parler, j'ai mal aux dents, j'ai mal au visage, j'ai mal à la tête, mais c'est devenu mon quotidien et la vie continue.
Mmh. Mais pourquoi vous ne pouvez plus sortir de la maison?
Parce que je ne peux plus, par exemple, me rester debout plus de 30 minutes, je ne peux pas m'asseoir dans la voiture. Tout mouvement, c'est, on va dire, un trigger, un déclencheur de douleur supplémentaire. Les secousses, ça fait mal. L'oreiller me fait mal. Donc, je ne peux pas toucher ma tête. Je peux pas toucher mon visage. Je ne peux pas me brosser les cheveux. Je ne peux pas mettre mes habits. Tout est douloureux. Tout est pénible. Mais la vie continue. je dois être, comme tu as dit, résiliente. Des fois, j'ai la force, des fois, je ne l'ai pas.
Alors, Ntissal,
oui.
Donc, aujourd'hui, vous ne travaillez plus, bien sûr.
Alors, surprisingly, I still.
Comment?
Comment j'ai fait? Alors, comment j'ai fait? Eh bien, parce que j'ai combattu. J'ai combattu, je me suis dit, je vais continuer à travailler. J'ai fait une petite période au début, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Je me disais, ça va partir, donc je ne vais pas lâcher le travail quand même. J'occupe un bon poste, j'ai travaillé beaucoup pour être promue. J'ai fait un parcours académique assez challengeant. Je ne vais pas laisser tomber pour des maux de tête, je vais continuer. Mais à un certain moment, c'était juste... insupportable. Donc, je fais des arrêts maladie par-ci, par-là. Heureusement que j'avais des managers, on va dire, qui étaient très à l'écoute. Au début, ben, aussi, c'était un peu difficile de comprendre, mais maintenant, ils connaissent un peu la situation dans sa globalité, pas dans les détails, mais dans sa globalité. Donc, ils essaient un petit peu de venir en m'aide en me proposant des solutions dans le maximum du possible. Après, je me suis dit, je vais reprendre le travail. Je vais faire comme si de rien n'était. J'étais carrément dans le déni. J'ai tenu, bon, on va dire...
Ça aide d'être dans le déni ? Ça aide ?
Non, ça n'aide pas. C'était une grosse erreur.
Okay.
C'était une grosse erreur. Mais ça m'a permis de continuer à travailler pendant toute l'année 2023. Mais 2024, c'était trop difficile. Donc, à chaque fois, on faisait des arrangements avec le travail, etc. Mais vers septembre, j'ai aussi fait un arrêt maladie de longue durée maintenant. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je me dis, si je lâche tout, je vais tomber dans la dépression.
Dépression 1.
Voilà. Donc, je suis en train de cotiser sur comment je vais encore continuer à travailler, comment je vais continuer à vivre ma vie dans le maximum du possible sans... agresser, on va dire, mon état physique ou bien mon état psychique. Mais en même temps, rester les bras croisés à la maison n'est pas autant du tout au niveau psychique. Parce que je suis là en train de dire, ma vie s'est arrêtée, mon travail est perdu, mes ambitions ne verront plus le jour. Je n'ai plus le droit de me projeter dans le futur. Donc, j'essaie de trouver un moyen pour rester active de façon dans le meilleur du possible, selon l'énergie que j'ai. Si j'ai une énergie aujourd'hui seulement de 10%, mais ces 10%, j'aimerais bien l'utiliser dans quelque chose de productif. Pas pour l'argent seulement, mais pour moi autant qu'individu.
C'est ça.
Pour sentir que j'ai de la valeur, que je fais quelque chose pour moi, pour la société, pour la communauté, pour mes enfants, pour... sentir cet accomplissement, c'est un sentiment qui est très rassurant. Parce que sinon, je vais me voir comme un individu avec un handicap. C'est difficile de l'accepter, certes. J'accepte la situation, mais je n'accepte pas de rester dans cette situation. Voilà.
Donc,
je l'accepte, mais je veux bouger.
En fait, quand vous travaillez de chez vous, bien sûr.
Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Bah, ça, c'était une négociation qui n'a pas été difficile. Bah,
ils ont compris,
les managers, ouais. ils étaient très compréhensifs sur ce sujet. Je travaille de chez moi, mais la nature de mon travail est quand même challengeante parce que moi, je travaille dans le système d'informatique et services technologie. Bah, c'est en face à des clients internationaux. Ils demandent un travail de qualité, c'est des réunions à la longueur de journée, c'est la gestion de projets complexes. Et même avec les collègues ou bien l'équipe, ce n'est pas des collègues purement marocains que je connais pendant des années, c'est des collègues internationaux. Quand ils ne te connaissent pas, ils te disent « Hi, how are you ?» le matin, tu ne vas pas lui dire « I am sick, I'm in pain ». Non, je dois dire « I'm doing great ». Mais I'm not doing great, you know. j'ai toujours cette façade que je dois maintenir pour garder cette image de Ntissa, la performante, la brillante, la souriante, l'active.
Mais ça vous aide à traverser tout ça, justement, d'avoir cette façade. Est-ce que c'est important de la garder avec l'extérieur pour ne pas être vue uniquement comme une malade?
Oui et non. Oui et non, j'ai pas envie de voir cette pitié sur moi,
c'est ça.
Ou bien de me coller cette image, elle est malade, ou bien de me dire, si elle a pas fait son travail, c'est parce qu'elle est malade. J'ai pas envie d'ouvrir cette porte qui va juste me nuire. Et donc, j'aime pas. J'aime pas. Je garde cette porte que pour les proches qui sont capables de me comprendre, qui sont capables de me soutenir. Les gens que je vois juste au moment de la réunion, je ne peux pas leur montrer mes vulnérabilités.
C'est ça.
C'est ça le monde professionnel.
Alors, il y a aussi les enfants. Vous avez parlé de vos parents, vous avez parlé de vos enfants, de vos frères et sœurs. Le papa de vos enfants.
Il ne peut que soutenir pour le moment.
C'est ça. Et les enfants, ils vont comment ?
Ah là là, les enfants. Les enfants, avec les enfants, c'est un combat au quotidien parce qu'ils sont encore petits. Et il y a aussi ce sentiment de culpabilité parce que je me dis, c'est pas de leur faute si je suis dans cet état. Et en même temps, je ne suis pas quelqu'un de quelqu'un qui peut leur infliger une mélancolie ou au sein de la maison. Je ne suis pas de ce genre. Donc, j'essaie de cacher ça. Certes, mon grand garçon, il sait que je suis malade parce qu'il a 9 ans. Et des fois, il peut venir dans ma chambre me voir en train de me tortiller ou bien de pleurer ou bien il est en train de me voir prendre des cachets, etc. Donc, il comprend que je suis malade. Des fois, on allume la musique, des fois, on fait des fous. Mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas chaque jour.
Mais dans toutes les maisons, ce n'est pas chaque jour, hein, Tessar.
Mais moi,
c'est pas chaque jour, c'est pas possible.
C'est pas les voyages, c'est pas les cafés, c'est pas les aires de jeu. Quand ça arrive, je dois vraiment prendre pendant une semaine de grands cachets pour que je puisse leur offrir une heure de sortie autant qu'enfant épanoui, etc.
Ouais.
Sinon, c'est ça. Ça se limite à ça et c'est des petits trucs à la maison. Mais on peut pas faire de grands plans en famille, etc. Non, c'est pas possible.
Alors, Ntessar Hafid,
justement, oui,
qu'est-ce que vous voulez que notre communauté de femmes d'aujourd'hui retienne de cet échange ?
Alors, moi, je suis persuadée que je ne suis pas la seule à vivre ça. C'est sûr qu'il y aura plusieurs mamans qui vont se retrouver dans cette histoire, pas forcément avec la même maladie, mais peut-être avec d'autres handicaps invisibles. J'aimerais exprimer ma frustration, mais aussi pour sensibiliser la société, les familles, les maris, comme vous avez mentionné, le corps médical, les assurances, les entreprises, pour reconnaître cette maladie et de nous offrir un meilleur environnement, de nous offrir un meilleur soutien pour qu'on puisse continuer et affronter cette épreuve. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont encore brillants, qui ont beaucoup à donner à la société. Il ne faut pas les priver et les emprisonner à la maison, à leur lit, à leur fauteuil, mais aidez-nous à vivre au sein de la société et à pouvoir continuer en nous donnant nos chances de travailler, d'aider nos enfants, de sortir, de nous donner peut-être une carte d'handicap pour ne pas rester à attendre dans la file d'attendre. Aidez-nous à être inclus dans la société comme tout autre individu. C'est ça le message.
Nsessar Hafid, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous, c'était un très bon échange. Merci à votre écoute, merci pour ce programme merveilleux. J'adore les histoires. Il y a des histoires qui m'ont passionnée, qui me donnent de l'espoir. Moi aussi, j'espère que je sois aussi l'une de ces femmes qui vont aider d'autres, qui vont leur donner de l'espoir, qui vont les aider. Bonne continuation.
Merci Ntessar. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.